Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Guillaume Nodin.
C'est la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. C'est la suite de notre édition spéciale à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Il est temps de parler maintenant de la relation entre le Tchad et son ancienne puissance coloniale, la France. Sujet sensible et épineux. Et pour cela, on se tourne vers Mamadou N'Djamena. Bonjour Mamadou.
Bonjour Monsieur Nodin, bonjour à tous les auditeurs et à vos invités également.
Merci pour eux. Les liens entre la France et le Tchad sont historiques et ils restent très forts encore aujourd'hui.
Historiques et très forts dans la mesure où aujourd'hui, dans le cadre de cette coopération, dans le cadre de ces relations bilatérales, la France a quasiment jeté son dévolu sur le Tchad parce que dans la lutte contre le djihadisme et le terrorisme dans le Sahel, je crois que le Tchad occupe la première place et en cela qu'aujourd'hui les armées nationales tchadiennes sont, n'est-ce pas, sur tous les théâtres des opérations en Afrique, surtout dans les pays où il fait vraiment très très chaud, disons, sur le plan militaire.
Cette relation, elle est trop proche selon vous, Mamadou?
Oui, elle est trop proche, mais moi je déplore aussi que ces relations n'ont pas de retombées visibles sur la population. J'aurais aimé que ces relations bilatérales soient des relations absolument ayant, n'est-ce pas, une connotation économique. Non. Or, dans le cas d'espèce, nous constatons qu'il y a une relation qui est le tout sécuritaire, le tout militaire. Je crois que c'est une diplomatie militaire qui, en quelque sorte, est en train de fortifier, de solidifier le système en place, mais pas une certaine, n'est-ce pas, un certain bénéfice pour la population tchadienne. C'est en cela que j'aurais aimé que toutes nos relations entre l'ancienne colonie qui est aujourd'hui la France et le Tchad, dite indépendance, soient, n'est-ce pas, débattues, soient connues. Et je serais très, très surpris même de connaître qu'aujourd'hui, un officiel, surtout un député tchadien, me dise qu'il ait connaissance ou qu'il ait accès, n'est-ce pas, aux accords qui sont signés entre le Tchad et la France. Donc c'est en cela que j'estime que ces relations-là doivent être limpides, claires, connues de tout le monde pour que dans le cadre de notre évolution, dans l'évolution de nos deux pays, ces relations puissent être bénéfiques à tout le monde. Il ne suffit pas seulement d'amener des aides parfois ponctuelles dans le cadre du budget de l'État ou bien dans le cadre d'intervention de l'Agence française de développement. Il faut qu'il y ait des aides vraiment conséquentes dans le cadre de la construction d'une démocratie, d'une nation qui soit en harmonie avec elle-même, d'une nation dont l'économie puisse permettre à cet État-là de pouvoir, n'est-ce pas, s'érisser à un certain niveau. Mais il ne suffit pas seulement d'aide militaire dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation des militaires, de la mise en place de entre parenthèses, G5 et consorts, qui, de mon point de vue, n'est pas du tout vraiment visible.
Alors, Évariste Garlem-Toldé, la France et le Tchad sont donc, on l'a compris, irrémédiablement liés, trop liés, avec trop d'opacité, comme le laissait entendre Mamadou à l'instant?
Effectivement, ça c'est un secret de polichinelle. Le président Déby l'avait avoué un jour, je crois, sur les chaînes d'une télévision et d'une radio internationale. Il avait bien voulu quitter le pouvoir en 2006, lui qui était l'intervention de la France, il a maintenu jusqu'aujourd'hui. Donc il a avoué ça devant les journalistes. Et voilà pourquoi on explique mieux la longévité de son règne en ce moment, d'une part. D'autre part, il vous souviendra que le président Sarkozy était arrivé un dimanche, rapatrié des prisonniers de l'âge de jouer dans des circonstances rocambolesques que jusqu'à aujourd'hui les Tchadiens n'arrivent pas à se l'expliquer. Donc les relations entre le Tchad et la France, c'est vrai, le président auditeur l'a dit, c'est une diplomatie militariste, militaire. Et c'est ce que le président Déby est en train de tirer comme profit pour asseoir son régime. Mais au fond, la population ne bénéficie de rien. On a cité les 10 premiers pays les plus puissants en Afrique. Il n'y a même pas un pays francophone à plus forte raison, le Tchad. On a cité les pays les plus riches, les 10 premiers pays les plus riches en Afrique. Il n'y a même pas encore un pays francophone, et même pas encore le Tchad. Donc, toutes ces relations-là, c'est pour maintenir un régime qui est là et qui fait donc les affaires de la France. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a le vent en poupe et on croit encore qu'il va postuler pour un autre mandat. Et la postérité ne comprendra pas comment se fait-il qu'un régime élu en 2006 sur la Troisième République, poursuit son mandat jusqu'en 2020 sous la 4e République, et deux ou trois ans après 2018 où le Forum national a fait sortir une nouvelle constitution. Vous voyez, il y a des choses que la France y est pour beaucoup et qui créent de la confusion, qui fait de l'amalgame dans la tête des Tchadiens et qui fait qu'aujourd'hui les Tchadiens n'ont plus confiance en cette relation franco-tchadienne. Il y a trop de possibilités, et il y a trop d'acquaintances dans ce qui se passe au Tchad et partout dans la région. Et les Tchadiens voudraient même à un moment tourner le dos à la France comme le Rwanda l'a fait, pourquoi pas, parce que ça fait plus de 60 ans qu'on est là dans cette relation très proche. C'est vrai, c'est pas seulement avec le président Déby, cela a commencé avec la première république de François Thomas Mbaye, mais aujourd'hui avec les 30 ans de règne de Déby, la France est vraiment aux côtés de ces régimes qui avec son pétrole, qui avec ses moyens, qui avec son armée est en train donc de défendre l'Afrique francophone un peu partout dans la sous-région. Et ça fait que l'intérêt des Tchadiens, ce que veulent les Tchadiens, n'est pas souvent pris en compte par le pouvoir en place.
Mahamat Nouri Bédou, j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu iconoclaste, parce que on parle souvent de la France-Afrique, mais on parle peut-être aussi parfois de plus en plus de l'Africa-France. Dans cette relation entre Paris et N'Djamena, qui a le plus besoin de qui ? Est-ce que la France, quelque part, n'a pas quand même besoin de plus en plus du président Déby et de l'armée tchadienne pour maintenir un certain ordre dans la région qui est secouée par les mouvements djihadistes ?
À l'époque, les relations étaient des relations où la France n'avait pas besoin vraiment du Tchad. C'était à sens unique. Il a fallu attendre le combat contre le djihadisme pour que le Tchad puisse être considéré comme un élément clé de la lutte contre le djihadisme. Mais je voudrais simplement ajouter que les relations entre la France et le Tchad ont toujours été, de tout temps, depuis les indépendances, militaires.
Oui, on peut rappeler la succession d'opérations françaises pour venir en appui aux autorités tchadiennes, Manta, Épervier, enfin voilà, tout ce qui est devenu Barkhane ensuite.
Oui, tout à fait. Cette intervention était là pour sauver des régimes en place, d'ailleurs des régimes du reste placés par les Français. Mais le problème, c'est que par exemple, si vous voyez, si un chef d'État français va en visite officielle, par exemple, en Côte d'Ivoire, il prend dans ses valises le ministre de l'économie et des finances. Parce que là-bas, on va parler économie et finances. Mais quand un chef d'État français arrive ici, il prend avec lui le chef d'État-major des armées. C'est-à-dire que très tôt, le Tchad avait toujours été considéré comme une zone militaire. C'est une zone militaire, une zone d'opération de la France. Ceci est d'autant plus inquiétant que les accords qu'il y avait entre la France et le Tchad étaient toujours entourés de certaines, étaient secrets.
Une certaine opacité.
Était opaque, effectivement. Ont toujours été opaques.
Oh là là, on va Mahamat Nouri Bédou, et on vient d'avoir un léger problème de ligne. On va essayer de vous retrouver, mais on a compris l'essentiel de votre propos. Comme on le disait depuis quelques minutes maintenant, la coopération est notamment militaire entre la France et le Tchad, et elle continue notamment en raison de la situation dans la sous-région avec la lutte contre les groupes djihadistes, dans laquelle l'armée tchadienne a un rôle prépondérant. Elle est réputée d'ailleurs comme étant la plus efficace du G5 Sahel, et pour en parler, nous allons à Lyon, en France, pour entendre Roukoul Mian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un
bonjour à tout le monde.
Merci. Oui, vous êtes un ancien militaire tchadien, et pour vous, c'est beaucoup d'efforts qui sont demandés à l'armée tchadienne dans cette opération Barkhane, et dans le G5 Sahel.
C'est vrai, il y a beaucoup d'efforts, et puis sur le plan logistique, sur le plan militaire, sur le plan des hommes aussi, ça nécessite beaucoup d'efforts, parce que généralement l'armée tchadienne, nous on combat généralement en nombre et bien équipé. C'est pour ça que comment on appelle, c'est ce qui fait que les militaires tchadiens sont assez respectés dans la sous-région. Mais cet effort-là, on ne peut pas le faire tout seul, c'est pas possible. C'est plus possible en fait. Il faut vraiment passer à la mutualisation des armées du G5 Sahel, voire même des armées africaines, parce que cette histoire de terrorisme et autres, on ne pourra pas s'en sortir d'ici les 10 prochaines années. C'est un combat de très longue haleine.
Ça ne peut pas durer comme ça, selon vous.
Ça ne peut pas durer comme ça. Et l'aide même de la France ou bien des pays occidentaux, ils n'ont pas le même agenda que nous autres qui subissons cette affaire de terrorisme. Il faudrait que les Africains commencent à se faire confiance entre eux-mêmes, hein, à faire confiance à leurs enfants qui sont capables de créer des matériels militaires, parce qu'il y en a, il y a des ingénieurs en Afrique, il y en a même un au Sénégal qui avait, Amadou Maktaba, je pense, qui avait essayé de créer une usine d'armement militaire, mais bon, personne ne lui fait confiance.
Voilà. Évariste, merci à vous. Évariste Ngarlem Toldé, le poids, les efforts qui sont demandés à l'armée tchadienne, est-ce que tout ça est trop lourd à porter sur la durée, comme le disait à l'instant, et l'évoquait à l'instant notre auditeur?
Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. N'est pas puissance militaire qui veut. Et le Tchad étant un pays pauvre, ne peut pas assumer, ne peut pas jouer ce rôle-là. Hein. Il vous souviendra que l'armée tchadienne est une armée, c'est vrai, une armée hétéroclite, mais qui manque de moyens. Aujourd'hui, c'est le mercenariat que le Tchad est en train de faire. Les interventions militaires du Tchad n'ont jamais été décidées à l'Assemblée nationale. Les députés n'ont jamais voté une intervention du Tchad à l'extérieur du pays. C'est une décision dictée par la France et le Tchad obéit au droit et à l'œil. Aussitôt, c'est des interventions. Le peuple tchadien n'est informé qu'après coup. Et cela n'est pas du tout normal. Hein, vous savez, les interventions du Tchad, nous les avons vues en RCA, au Cameroun, au Nigeria, au Niger et même au-delà, au Mali, un peu partout, au Yémen, comme dirait certains. Donc le Tchad ne peut pas être une puissance sous-régionale. Le Tchad manque de moyens et manque de compétences pour assurer ce rôle-là. Aujourd'hui, combien de Tchadiens sont envoyés à la boucherie? Ils n'ont même pas les moyens pour vérifier l'environnement autour de Tissalit ou je ne sais pas où, au nord du Mali. Ils ont été surpris une fois par les djihadistes et mis était l'intervention de l'armée malienne. Mais combien de cercueils on a rapatriés au pays après cette embuscade? Toujours est-il que le Tchad est en train de payer le prix fort en ce moment, mais pour rien, parce que le Tchad ne bénéficie de rien de toutes ces interventions-là, parce que jamais cela n'a été décidé au niveau de l'Assemblée nationale, jamais un compte n'a été rendu au Tchad de ce qui se passe, mais il est quand même temps qu'on s'arrête, qu'on se pose des questions et qu'on demande des comptes à notre gouvernement. Qu'est-ce que le Tchad a gagné dans ces interventions-là qui continuent et qui ne s'arrêtent pas et jusqu'à quand cela va s'arrêter? Qu'on dise pourquoi les fils et les filles du Tchad sont envoyés à la boucherie pour un rien. Que gagne le Tchad? Il sait qu'il y a eu des mouvements d'humeur, même au Mali, des gens qui n'ont pas été payés. Leur argent, je crois, c'est versé directement en Yamena. Les soldats qui souffrent au front ne bénéficient de rien du tout, à ce que je sache. Donc vraiment, il est temps que le Tchad s'arrête un peu, qu'on fasse le bilan de cet interventionnisme militaire du Tchad un peu partout en Afrique, et que le gouvernement nous rende un peu de compte. On ne peut pas continuer comme ça, par envoyer les Tchadiens à la mort.
Mahamat Nouri Bedou, le poids de l'armée, c'est un problème pour la société tchadienne?
Absolument. Et là, je suis d'accord avec M. Toldé sur le fait que le Tchad a beaucoup perdu dans cette guerre-là. Et là, bon, disons que la faute ce n'est pas au Tchad en tant que tel, au gouvernement tchadien, non. Nous pensons que les objectifs visés dans les randonnées militaires envoyées dans le effectuer ça et là visent également un autre objectif. C'est-à-dire que Idriss Déby est considéré comme un protecteur de l'Afrique au Sahel. Et là, il n'a pas été récompensé, ces efforts n'ont pas été récompensés. Mais au-delà de ça, il a un bénéfice géopolitique et diplomatique qui est là. Peut-être le fait d'envoyer des soldats à l'extérieur, c'est en quelque sorte pour lui un gage de maintien au pouvoir par la France, parce que la France pense qu'il n'y a que Déby qui est capable
Vous voulez dire que ça le rend incontournable. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est l'économie. Clément nous attend à N'Djamena. Bonjour Clément.
Oui, bonjour, bonjour aux panélistes.
Le Tchad a-t-il pris le train du développement en 6 décennies?
Je suis désolé de le dire, mais on a tout parlé, on a fini pratiquement une heure de débat. L'économie va intervenir à la dernière minute. Et voilà pourquoi, justement, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe dans ce pays. On parle sécurité, on parle pouvoir, on parle politique. L'économie, c'est à la dernière minute. Et puis, on se réveille, on commence par en parler. Et puis, finalement, rien ne se passe concrètement. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce pays. Il y a un véritable problème où tout le monde sait que l'économie du Tchad est basée sur l'agriculture et sur l'élevage. Le pétrole est arrivé un peu plus tard pour dire peut-être que c'est une manne. Ok, on appelle ça manne, mais en réalité, qu'est-ce qu'une manne pétrolière au Tchad? Jusqu'à la production extrême, le Tchad était autour de 125 000, 150 000 barils jour. Alors que les pays producteurs pétrole, les vrais pays producteurs, sont à plus d'un million de barils par jour. Donc on ne peut même pas dire que le Tchad est un pays producteur de pétrole parce que c'est rien du tout comparé aux vrais pays qui produisent le pétrole. Mais néanmoins, on a focalisé l'attention sur ce pétrole en délaissant les autres secteurs du pays au point qu'aujourd'hui, ben justement, nous payerons et nous continuons à payer ces pots cassés parce que nous n'avons pas compris qu'un pays comme le Tchad ne peut se développer qu'au travers de ses ressources de l'élevage et de l'agriculture parce qu'au moins, on a de la terre arable, on a de la terre qui peut être cultivée. On a l'élevage qui peut être fait, mais on a mis ça de côté. Et encore une fois, moi je dirais même, ce n'est pas forcément à cause de la politique, mais c'est davantage à cause même du comportement des Tchadiens. On a, sur le plan théorique, des projets qui sont nés, le PNSA qui est né, le projet de l'élevage qui sont nés par-ci par-là, mais il y a beaucoup d'argent qui sort pour ces projets. Mais sur le terrain, il n'y a rien. Et ce n'est pas forcément le gouvernement, mais c'est tous ceux qui sont dans la chaîne de gestion qui, aujourd'hui, tout ce qui arrive dans l'économie du Tchad, la seule question que la plupart des Tchadiens se posent, qu'est-ce que j'y gagne? C'est-à-dire, à titre individuel, les gens s'en foutent de ce qui va à l'économie du pays, mais tout le monde se pose la question, comme en arabe ici, « Hagifo Rachinou », qu'est-ce que je gagne de ça? Et là, c'est ça qui nous tue en économie au Tchad.
Évariste Ngarlem Toldé, je vous pose directement la question. À qui bénéficie la croissance quand elle est là?
Mais on peut s'interroger si la croissance au Tchad. Je crois que l'intervention qui vient de suivre a tout son sens. Effectivement, est-ce que le Tchad gagne quand même en croissance? Et même si à croissance, la population n'en bénéficie pas, il n'y a pas de retombée sur la population. Et justement, il a pointé du doigt le vrai problème de notre pays. Il vous souviendra qu'on a assez des abattoirs qui fonctionnaient depuis le début des indépendances. Je me rappelle le Sidi Tassar, de l'abattoir frigorifique de Farcha et bien d'autres choses qui concernent l'élevage. Il a cité aussi les questions de sécurité alimentaire, pêle-mêle. Mais que gagne cette population? Effectivement, rien. Absolument rien. Donc voilà, le problème économique n'a jamais été donc le principal souci de nos dirigeants. Les problèmes économiques n'ont jamais été le souci de nos gouvernants. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si on doit citer les pays les plus pauvres du monde, soyez rassurés que le Tchad tiendra la clé, sinon juste avant la Syrie. Donc voilà, la situation est catastrophique en ce qui concerne l'économie du pays et on ne sera pas là en train de pleurnicher tous les jours pour dire que c'est ça. Il est temps peut-être que les gens réagissent, que les gens agissent pour que le Tchad puisse décoller, pour que le Tchad puisse se développer comme les autres pays.
Merci.
Il a souligné.
Merci Évariste Ngarlem Toldé, comme le faisait...